chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Dans quelques instants, tout de suite même, le quiz biblique avec Jérôme. N'hésitez pas, chers auditeurs, à participer.
Oui, bonjour amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Voilà, oui, effectivement, c'est le quiz biblique, hein, il me semble bien, parce qu'on est bien vendredi, 17h passées de quelques minutes, et nous sommes avec Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme.
Et bonjour à tous les animaux.
Je suis encore prête.
Et voilà, c'était le test. Ben, on est obligé d'interrompre l'émission. Eh bien, tant pis, je suis désolé. Voilà, donc non, en fait, on attend vos appels. En fait, c'est ça que je voulais dire.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Ensemble.
Bien voilà, chers amis, il est temps d'y aller là. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes dans le quiz biblique, amis auditeurs. Des auditeurs en attente?
Oui. Jean-Mathieu et Marcel.
Bonjour Marcel, bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Alors, Jean-Mathieu de Villefranche, du côté du département du Rhône.
Ouais.
Je ne me trompe pas. Et Marcel, bonjour, d'où vous nous appelez? Alors Marcel, est-ce que tu es sûre, Sandrine, que nous avons une?
Oui.
Une, hein, c'est ça, une Marcel.
Oui, oui, Marcel, mais je pense qu'on a dû perdre, donc je vais raccrocher et on verra. Allez.
Alors Marcel, si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à rappeler, il y a dû y avoir une petite coupure. Voilà, et nous allons commencer avec Jean-Mathieu.
Oui.
Jean-Mathieu, est-ce que vous êtes prêt?
Oui.
Eh bien c'est parti. Alors attention, il y a des questions qui ne sont pas toutes propres à la Bible, à l'écriture. Notamment celle-ci qui vient, la première. Alors Jean-Mathieu, il s'agit d'une discipline. Une discipline qui traite de la vie, de l'œuvre et de la doctrine des pères de l'Église dans le christianisme historique.
Ah oui.
Cette discipline s'intéresse à l'ensemble des écrits des pères de l'Église en matière de théologie, mais aussi toutes leurs disputes avec les hérétiques ou encore leurs textes liturgiques. Alors la question, tout simplement, quel est le nom de cette discipline, Jean-Mathieu? Trois possibilités: la patrologie, la patristique ou l'herméneutique.
La deuxième, je pense.
La patristique. Et c'est une excellente réponse de Jean-Mathieu. Alors, je crois que nous avons d'autres auditeurs.
Marcel, nous avons retrouvé Marcel, donc bonjour Marcel, et Richard est venu nous rejoindre, Richard aussi. Voilà, bonjour à tous les deux.
Bonjour Marcel, bonjour Richard, bienvenue dans le quiz.
Merci.
Alors Marcel, vous nous appelez d'où?
De Tournefeuille, c'est dans le 31.
Alors c'est dans le sud-ouest.
C'est ça.
Tarn-et-Garonne.
Exactly.
Ok Marcel, et Richard, vous nous appelez d'où?
Alors moi, je vous appelle Belèze-sur-Mer, entre Nice et Monaco.
Entre Nice et Monaco, super. Ben voilà, on a trois voilà. Régions différentes.
Ah, on n'a pas les mêmes valeurs, hein. Dis donc.
Ah ben, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Hein. Enfin, si. Enfin,
ça dépend lesquelles.
Enfin voilà, déjà, il faut faire une discussion sur les valeurs, mais là, c'est pas le but. Et ça pourrait nous prendre un certain temps.
Sûr.
Alors, ben, on avait commencé donc ce quiz avec Jean-Mathieu, qui était donc le premier à répondre... justement à la première question, puisque c'était donc la discipline qui traite de la vie, de l'œuvre et de la doctrine des pères de l'Église dans le christianisme.
C'était une bonne réponse, ouais.
Il s'agissait de la patristique, comme a bien répondu Jean-Mathieu. Patristique est à distinguer de la prologie. La patrologie, ça concerne les pères de l'Église dans le domaine de la foi. Alors que la patristique, c'est vraiment la littérature patristique qui comprend d'ailleurs beaucoup de genres littéraires différents, des commentaires, des homélies, et qui se fonde bien sûr sur l'écriture, sur la Bible, étudiée dans son sens littéral, mais aussi historique, et aussi surtout dans son sens spirituel.
D'accord.
Voilà pour la patristique, et je rappelle d'ailleurs à tous nos auditeurs que nous avons une émission qui s'appelle La patristique avec le père Jean-Noël Dole, qui est un spécialiste des pères de l'Église, et qui, au cours des émissions qu'il nous donne sur Radio Maria France, traite père après père, hein, tous ces fondateurs, ces commentateurs que sont les pères de l'Église. Eh bien, je continue alors avec qui on va prendre Marcel.
On tente ça.
Parce que Marcel, vous aviez déjà appelé une première fois avant que ça coupe. Allez.
Oui. En fait, j'ai déjà un fixe au bout de 3 minutes, c'est déchargé.
Oh là.
Du coup, j'ai pris mon portable.
Très bien. Et il est chargé ?
Oui.
Bon. Ok, Marcel, pour la question suivante. Alors, comment appelle-t-on la doctrine du salut de l'âme ? Comment appelle-t-on la doctrine du salut de l'âme ? Marcel, 3 possibilités toujours. Est-ce qu'il s'agit de la sotériologie, de la christologie ou de la théologie ? La doctrine qui traite vraiment de la question du salut de l'âme. Sotériologie, christologie, théologie. À Marcel, pas de chance, hein, une question pas facile.
Alors, de l'âme, bon, ça peut pas être... J'étais tentée de dire théologie, mais c'est principalement de l'âme, alors c'est christologie.
Alors, qu'est-ce que c'est, là, cette sotériologie ? Alors, qu'est-ce qu'en pensent, d'ailleurs, Richard et Jean-Mathieu ?
Moi, personnellement, je ne vois pas très bien. Je dirais plutôt la réponse numéro 1.
Sotériologie, par élimination, un petit peu. Hein. Et Jean-Mathieu ?
J'ai déjà la deuxième, moi.
La christologie, comme Marcel, eh bien, c'est Richard qui a raison. C'est la sotériologie, la première réponse. Alors effectivement, elle n'est pas facile. Effectivement, en éliminant, on peut éliminer la christologie qui est centrée sur le Christ, bien sûr. La théologie qui est vraiment au sens large. La sotériologie, c'est l'étude des différentes doctrines religieuses du salut. Alors dans la théologie, on peut dire que d'ailleurs la sotériologie peut faire partie de la théologie catholique. Hein, la théologie, c'est plus vaste. Cette sotériologie, elle est d'ailleurs liée à la doctrine du péché originel, puisqu'on parle du salut, c'est qu'il y a un péché et qu'il y a un salut possible. Elle est donc un sous-ensemble de la théologie. Alors que la christologie, comme avait répondu Marcel, la christologie, c'est la discipline de la théologie qui étudie la personne, la doctrine et l'œuvre de Jésus-Christ.
Tout à fait. Alors, comment tu l'écris, la sauter machin chouette, hein ?
Alors, la machin chouette, comme machin chouette, M-A-C-H-I-N, S-O-T-E-R-I-O, L-O-G-I-E.
D'accord, merci beaucoup.
Voilà.
J'en apprends tous les jours.
Alors, c'est le but, on apprend. Moi, j'apprends en faisant aussi. Et on continue. Question suivante avec Richard.
Oui.
Alors, Richard, que signifie vétérotestamentaire ? Que signifie vétérotestamentaire ? 3 possibilités, Richard. Est-ce qu'il s'agit d'un testament avant sa modification ? Ou bien de tout ce qui est relatif à l'Ancien Testament ? Ou bien des derniers vœux d'un vétéran ?
Oula.
Je dirais le dernier.
Les derniers vœux d'un vétéran ?
Oui.
Vétérotestamentaire. Alors, on va interroger aussi peut-être Marcel et Jean-Mathieu.
Le premier, c'était quoi ?
Un testament avant sa modification, ou bien tout ce qui est relatif à l'Ancien Testament, ou bien, comme a répondu Richard, les derniers vœux d'un vétéran.
Tout ce qui est à l'Ancien Testament.
Ancien Testament pour Marcel. Et Mr. Jean-Mathieu ?
Je dirais le deuxième, moi.
Aussi, c'est la bonne réponse de Marcel et de Jean-Mathieu, c'est tout ce qui est relatif à l'Ancien Testament, par opposition donc au Nouveau, bien sûr, au Nouveau Testament, vétérotestamentaire, l'Ancien, Nouveau Testament, le Nouveau, mais là, il y a le nom dedans. Voilà, donc on peut dire que c'est synonyme, on peut dire Ancien Testament ou tout ce qui vient par exemple d'un passage vétérotestamentaire, ça veut dire que c'est dans l'Ancien Testament.
D'accord.
On va retourner vraiment dans l'écriture avec donc Jean-Mathieu pour la question suivante.
Oui.
Alors Jean-Mathieu, on va dans le livre de la Genèse, on va au chapitre 8.
Oui.
Dieu promit après le déluge. Alors là, le début de la phrase, alors déjà le déluge. Ça commence par une petite bruine, puis ça devient une pluie un petit peu plus soutenue, puis là, ça devient carrément voilà, les grandes eaux. Alors, selon Genèse au chapitre 8, Dieu promit après le déluge, « Je ne frapperai plus... » Alors, c'est pour Jean-Mathieu, trois possibilités. « Je ne frapperai plus, un, tous les vivants, deux, les hommes, ou trois, les justes. »
Les hommes.
À Jean-Mathieu d'abord.
Tous les vivants.
Et c'est une bonne réponse de Jean-Mathieu. Tous les vivants.
Oui, c'est vrai qu'il y avait les bêtes aussi. Oui, d'accord, oui.
Alors, vous pouvez aller vérifier. Oui. Hein, c'est dans le chapitre 8 en Genèse, au verset 21, à partir du verset 21. C'est bien tous les vivants. Donc, on imagine que ça inclut voilà, les animaux.
Ouais, ça inclut les bêtes et...
Voilà, les bêtes. Et peut-être toutes les plantes, voilà.
Les plantes, oui.
Je ne frapperai plus tous les vivants, c'est la promesse hein, donc, de Yahvé après
le
déluge.
Il avait laissé aussi un signe pour le connaître, pour le rappeler de cette promesse, c'est l'arc-en-ciel.
Et oui, c'est le signe de l'alliance, de cette nouvelle alliance avec Noé et le déluge, l'arc-en-ciel. Eh bien, nous continuons, question suivante avec Marcel.
On y go.
Let's go. Alors, Marcel, cette fois, il faut finir un verset d'un psaume. Alors, il s'agit du psaume 22. Alors, j'ai pris ce psaume parce que quand même, on le dit beaucoup dans l'église, dans les offices. Psaume 22. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et il faut trouver la fin. Marcel.
Ton bâton est à Olette me conduit, c'est ça quelque chose
Attendez Marcel. Alors première possibilité, tu es avec moi tous les jours de ma vie, ou bien tu es avec moi dès l'aurore, ou bien tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Ton bâton me guide et me rassure.
Oui, sans hésitation. Oui, ton bâton me guide et me rassure. C'est le verset 4 de ce psaume 22. Très très beau psaume, c'est mon... Je crois que je peux dire que c'est mon préféré. Allez, on peut le dire. Voilà, le Seigneur est mon berger.
Beaucoup, hein, parce que ça touche profondément.
Oui. Voilà, très bonne réponse de Marcel. On continue avec Richard. Richard.
Oui.
Alors.
Richard Cœur de Lion.
Richard Cœur de Lion.
Oui.
Qui...
Le lion est un peu fatigué.
Bon. En même temps, le lion, si on regarde bien, ça dort beaucoup. Hein. Alors, qui a survécu à la destruction de Sodome et Gomorre? Qui a survécu à la destruction de Sodome et Gomorre? Trois possibilités, Richard. Première, ben, il n'y a pas eu de survivant. Deuxième, c'est Jacob. Troisième, c'est Lot.
Ah, je dirais Lot.
Et oui, Richard, c'est une très bonne réponse.
Ah, c'était fastos, ça.
J'ai pas entendu.
Oui, elle disait que c'est fastoche. Oui, c'est bien. En tout cas, c'est bien l'autre. Mais bah oui, mais ça dépend. Hein. Il faut parfois se souvenir. Parce que, d'autant plus que la destruction a été quand même, je crois, quand même assez terrible. Hein. Donc, on aurait pu se dire, bah, il n'y en a pas eu un seul qui a survécu. Mais si, il y a l'autre. Et la référence, c'est au chapitre 19 en Genèse, à partir du verset 23. Et on sait que Dieu donc a permis à l'autre et aussi à sa femme de s'échapper, à condition qu'il ne regarde pas en arrière.
Ouais, voilà. Parce qu'il va se transformer en sel, autrement.
Alors, qui va transformer en sel?
La femme.
Et oui, la femme de Lot. Lot réussit à s'échapper, mais sa femme se retourne, elle regarde en arrière, et elle est transformée aussitôt en statue de sel. C'est quand même une drôle de... Hein, c'est un finir en statue de sel.
Ouais, c'est...
Au moins, c'est,
pas de poivre.
C'est utile pour les autres.
Eh oui, on est des fois attaché à son passé.
Et oui.
On veut regarder en arrière.
Et voilà. Celui qui ne veut pas avancer sur le nouveau chemin qui lui est offert, mais qui se retourne en arrière. Voilà, nous continuons cette fois. Question suivante avec Jean-Mathieu.
Oui.
Alors Jean-Mathieu, on est cette fois dans l'évangile selon saint Matthieu. Tombe bien.
Ouais.
Que fit le troisième homme de la parabole des talents en Matthieu avec ce qui lui a été confié? Que fit donc ce troisième homme de la parabole des talents avec ce qui lui a été confié? Trois possibilités. Il alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il acheta un champ avec l'argent de son maître. Troisième possibilité. Il le garda soigneusement chez lui dans la maison.
Il a fait un trou.
il a fait un trou dans la terre. Et oui.
Il a fait un trou dans son sang.
Et oui, c'est quand
il
même.
Il a enterré.
Il a enterré la pièce, effectivement, dans un trou dans la terre. C'est une très bonne réponse, Jean-Mathieu. Et oui, c'est bizarre, hein, mais il est allé faire un trou, il a mis la pièce. Voilà, donc c'est dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Alors, pour peut-être un commentaire sur ce passage, Marcel ?
Un commentaire par rapport à celui-là qui va enterrer la pièce.
Oui, et là. Et là. La parabole des talents.
Une première pensée qui me vient. Mais en fait, moi, les talents, pour moi, dans cette parabole, je ne vois pas ça comme de l'argent. Je vois ça aussi comme les dons que Dieu nous donne. Il faut les fructifier par les actions pour mieux rendre témoignage de ce qu'on a reçu de lui.
Amen.
Et celui-là a reçu un don et ben, il n'a pas su, par ce don, parler de Dieu, ni même en profiter lui-même aussi.
Et les autres, sans
produire,
enfin,
sans
autres.
Rien.
Eh bien, Marcel, voilà. Hein.
Voilà.
Super, très bonne réponse de Jean-Mathieu et très bon commentaire de Marcel.
Merci.
On continue donc ce quiz biblique. Il y a une voiture qui vient de passer.
Oui, ben, parce que moi, je suis aujourd'hui, je suis bénévole et je dois fermer l'église. Alors, alors vous allez entendre un peu des bruits.
D'accord. Eh bien, donc, on continue avec Marcel. Alors, Marcel, on reste dans l'évangile de Matthieu. Alors, bâti sur le roc et bâti sur le sable. Dans cette image utilisée par Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, de quoi s'agit-il ? Marcel, une tour, une maison ou le temple ?
Une maison.
Une maison, without any hesitation.
Bravo Marcel, t'as trouvé.
Merci, je n'entends pas les animaux ou les jingles là.
Ben oui, qu'est-ce qui se passe ?
Ah bon, c'est même pas ça, le bravo.
Alors c'est pas une maison, c'est une ferme en fait. Hein.
Mais en tout cas, c'est bâti au moins une ferme aussi.
Ah, c'est une ferme en Afrique, parce que là, je viens d'entendre un animal. On le trouve pas dans les basses-cours en France. Hein. Alors très très bonne réponse, magnifique Marcel. Alors c'est bien, en tout cas.
Enfermé.
C'est bien une maison dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. Je cite quand même le passage, parce qu'il est beau ce passage, il est beau, il faut le dire.
Il est très très beau et très instructif. Si vraiment quelqu'un médite là-dessus, c'est une bonne ligne de conduite, c'est une parole de sagesse.
Voilà, exactement. Parole de sagesse, ainsi... Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique, parce qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut encore appliquer, peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc.
Bonjour.
La pluie...
On va fermer.
D'accord. On ferme dans quelques minutes. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. C'est super parce que Richard, il travaille quand même, Richard, en fait. Il travaille, ouais. Il fait le quiz biblique et je trouve que c'est super.
Ouais, je m'excuse, mais... c'est pour ça que j'avais hésité à appeler, mais je me suis dit, bon, j'appelle quand même.
Ah, ferme la sacristie. Et nous continuons avec Richard.
Oui.
Richard qui vient de prendre sa moto.
Voilà.
C'est un lion.
Je ferme la porte, là. Voilà.
Des bruits qui viennent de la régie. Bon, bref, alors Richard, dans quel évangile, ça peut être au pluriel ou au singulier, dans quel évangile, on parle donc des quatre évangiles, parle-t-on des circonstances de la naissance de Jean-Baptiste ? Dans quel évangile, au singulier ou au pluriel, parle-t-on des circonstances de la naissance de Jean-Baptiste ? Quatre possibilités. Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ou deux, ou trois, ou aucun. Dans lequel de ces évangiles parle-t-on des circonstances de la naissance de Jean-Baptiste ? Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Alors que je réfléchisse un peu. La naissance.
Alors peut-être pour aider, je peux quand même dire qu'il n'y en a qu'un seul qui en parle. Je suis obligé de m'absenter parce qu'il y a un bébé qui vient d'arriver en régie.
Ah, on nous a déposé un bébé dans un couffin.
Alors, dans quel évangile parle-t-on des circonstances de la naissance de Jean-Baptiste ? Est-ce que c'est chez Matthieu, chez Marc, chez Luc ou chez Jean ?
Je sais pas, là, je m'en rappelle plus. Oh, je dirais chez Jean.
Chez Jean. On va demander à Marcel et à Jean-Mathieu s'ils ont aussi la même idée ou une autre idée.
Luc.
Luc pour Marcel et,
oui.
Et Jean-Mathieu.
Mathieu.
Ouais. Eh bien, c'est Marcel qui a raison, c'est Luc. C'est dans l'évangile de Luc, c'est le seul qui en parle. Alors, bien sûr, il y a des récits d'enfance concernant Jésus chez Matthieu et chez Luc, mais vraiment, les circonstances plus détaillées de la naissance de Jean-Baptiste, c'est chez Luc qu'on le trouve, d'ailleurs au premier chapitre, hein, chapitre 1. Trouve la comparaison d'ailleurs avec la naissance de Jésus, la naissance de Jean-Baptiste. Il y a plusieurs histoires comme ça, et Luc met en parallèle les deux naissances. On sait qu'ils étaient cousins. Ils avaient peut-être 6 mois d'écart, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Et on entend ce petit bébé qui vient d'arriver. Alors, on continue la question suivante avec Jean-Mathieu.
Oui, on dirait, oui.
Alors, Jean-Mathieu, cette fois, on va dans l'épître de Saint-Jacques. Épître de Saint-Jacques, selon Jacques, comment la foi est-elle rendue parfaite ? Selon Jacques, comment la foi est-elle rendue parfaite ? 3 possibilités, soit par une...
Par quoi parfaite ?
Par quoi la foi est-elle rendue parfaite ? Absolument faite. Comment la rendre parfaite ?
Imparfaite.
Oui. Par une grande piété, par les œuvres ou par la sagesse ?
Par les œuvres.
Oh là là, Jean-Mathieu, aucune hésitation ! Et c'est une bonne réponse. Jean-Mathieu, il est devenu mais fortiche sur la Bible.
Dans un certain jeu, il dirait cash.
Cash.
Il répond cash.
Jackpot cash.
Pas de carré, pas de duo, c'est cash.
C'est cash. Et oui, et c'est effectivement Jacques au chapitre 2 de son épître, versets 22-24. Je vais vous lire le passage. Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi et que c'est réalisé l'Écriture, qui dit « Abraham eut la foi, eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il reçut le nom d'ami de Dieu. » Donc vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres, et pas seulement à la foi.
Mmh.
Après, il y a eu des discussions entre saint Paul, ce que dit saint Paul, seule la foi justifie, machin, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que c'est très très complexe. Et nous
C'est quoi ce pigeon frileux, là ?
Hein ? Je demande directement à Sandrine, c'est quoi ce pigeon frileux ? Hein ? T'as entendu ? Ah ben, elle n'a pas de réponse, voilà. Elle rigole. Alors, on continue avec Marcel.
Ah.
Alors, Marcel. Lors du choix du remplaçant de Judas, parce que Judas, il n'a pas très bien fini, il fallait le remplacer dans les Actes des Apôtres. Quelle était la condition fixée pour faire partie du groupe des apôtres ? Il y avait une condition fixée pour faire partie du groupe des apôtres pour trouver ce remplaçant à Judas. Possibilité.
Ah.
Mais il n'y a pas la circoncision.
D'accord.
La première, avoir une foi vive en Jésus. La deuxième, être de bonne moralité et de bonnes mœurs. Et la troisième, avoir accompagné Jésus depuis Jean-Baptiste jusqu'à la crucifixion.
La première.
Avoir une foi vive en Jésus ou bien être de bonne moralité et de bonne mœurs.
Et la dernière, avoir suivi
Jésus. Et oui, Marcel. C'est une excellente réponse. Et on se trouve dans les Actes au chapitre 1, versets 21-22. Je vous cite le passage, c'est « il », alors « il », ça désigne Pierre. « Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé. Il y en est un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Et petite question supplémentaire dans la même question, il s'appelle comment le nouveau venu qui va être choisi ? Est-ce que vous le savez ? Oui, Richard, Mathias. C'est Mathias. C'est Mathias, tout à fait. Voilà, donc effectivement, là, entendre des voix ou des apparitions, ça ne suffit pas pour devenir apôtre. Il faut avoir alors suivi Jésus depuis Jean-Baptiste. Voilà, parmi ces hommes-là, c'est parmi ceux-là.
Je croyais que c'était la réponse numéro 2.
Être de bonne moralité, de bonne mœurs.
Voilà.
Bon, je pense que ça doit être une...
Jésus n'aurait pas exigé ça, je crois, parce que vraiment, il était miséricordieux. Il savait que...
Voilà.
On a besoin d'une conversion...
Voilà, effectivement.
Il ne vient que de lui.
Voilà, mais c'était vraiment la... Effectivement, on peut considérer que c'était peut-être une condition en plus, mais en fait, la première, c'était bien celle-là, d'avoir accompagné Jésus depuis le début, en fait, de la prédication. Et, chers amis, nous allons poser la dernière question, parce que le temps file.
Et je... Ça part comme un éclair, il paraît.
Comme un éclair.
Ouais, je suis en train de fermer, là. Ouais. Alors...
Ah, on entend la porte, là, ça tombe bien. Richard va... Avant que Richard ferme, ah, les clés.
Voilà.
Alors, pour tous les trois, Marcel, Richard, Jean-Mathieu...
Oui.
Ça, c'est la question exégèse. Bon, c'est la question difficile, je garde pour la fin. Il semble que Jean-Baptiste, mais aussi Jésus et sa famille, étaient proches d'une communauté monastique qui vivait dans le désert de Judée. Alors, comment s'appelait ce mouvement assez large, hein, qui s'était d'ailleurs ce mouvement complètement détourné du temple d'Hérode, hein, parce que le temple était occupé par les Romains, puis par les grands prêtres qui étaient collaborateurs avec les Romains. Bref, il s'était détourné du temple et on pense que Jean-Baptiste a eu connaissance de ce mouvement et peut-être aussi Jésus. Possibilité, s'agissait-il des Zélotes, des Esséniens ou des Pharisiens ?
Les Zélotes.
Les Zélotes pour Jean-Mathieu. Marcel, pareil ?
Il y a les Zélotes, il y a les Pharisiens.
Et les Esséniens, c'était la troisième possibilité, enfin une des trois possibilités. Zélotes, Esséniens, Pharisiens.
Mmh. Non, Esséniens.
Alors, Zélotes pour Jean-Mathieu, Esséniens pour Marcel. Richard.
Allez.
Richard, c'est les Esséniens.
Et oui, ce sont les Esséniens. Marcel et Richard, effectivement. Oh. C'était un mouvement du judaïsme de la.
Jingle, pour finir, jingle, Sandrine.
Jingle, jackpot.
Elle a gagné un tour de manège.
Alors, il y avait des communautés.
Elle a gagné un tour de manège.
Un tour de manège.
Merci, dans le ciel.
Un tour de manège dans le ciel.
Merci, Sandrine.
Avec Élie et Moïse.
C'est ça. Et il ne faut pas oublier Maman Marie.
Et Maman Marie. Alors, il y avait effectivement des communautés monastiques, mais aussi des communautés de familles qui suivaient les règles religieuses de ce mouvement. Et il existait des Esséniens en très grand nombre, plusieurs milliers qui vivaient dans la Judée romaine. Et si vous le savez, c'est qu'à partir de 1947, on a trouvé des choses. Il y a des fouilles qui ont été faites à Qumran, et on a découvert plein de documents religieux connus sous le nom de manuscrits de la Mer Morte. Et dans ces manuscrits qui ont été traduits, tout ça, on a trouvé des rites très originaux, avec des ablutions liturgiques, par exemple, des prières qui sont dites en commun, et aussi l'attente des derniers jours, la venue d'un ou deux messies. Voilà, et ces manuscrits de Qumran présentent beaucoup de points communs avec le message chrétien. Et certains spécialistes pensent que peut-être que Jean-Baptiste a vécu un certain temps dans cette communauté, dans ce mouvement, et qu'il lui doit une partie de sa formation religieuse. Un mouvement de puristes, hein, qui voulait voilà, purifier, retrouver la royauté d'Israël et de Yahvé, dans cette Jérusalem corrompue, on va dire. Amen, alléluia, merci beaucoup tous
amen.
Les trois.
Ouais. Amen, j'attends cette émission.
Et ben en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci Marcel, merci Richard, merci Jean-Mathieu.
Ouais. Avec plaisir, merci à vous.
Merci à toi, Jérôme, et puis une grande prière pour Radio Maria.
Merci infiniment.
Dieu vous bénisse. Merci. Union de prière.
Union de prière.
Merci,
Soyez...
Merci Sandrine.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Voilà, et chers amis auditeurs, on se retrouve vendredi, même heure, 17h. Au revoir Sandrine.
Au revoir Jérôme.